Vous écoutez Europe 1, merci de nous rejoindre, il est 19h.
C'est le chaos, les routes sont fermées, il y a des embouteillages, il y a des endroits inaccessibles.
24 heures après l'explosion du port de Beyrouth, les Libanais sont encore en état de sidération devant les conséquences du désastre. Dernier bilan, 113 morts, 4000 blessés et des dizaines de personnes toujours portées disparues dans les décombres.
Et face à ce chaos qui règne dans la capitale, à l'incompréhension quant à l'origine de la catastrophe, les Libanais réclament des comptes, le gouvernement sur le banc des accusés.
Dans ce journal également, les pompiers des Bouches-du-Rhône toujours en alerte pour contrer d'éventuels nouveaux départs de feu. Et puis, sur le front de l'épidémie de coronavirus, quelques indicateurs encourageants pour le département de la Mayenne, pourtant considéré comme l'un des principaux clusters en France.
Sans oublier bien sûr la météo. Rebonsoir Valérie Darmon.
Sans surprise, le beau temps s'installe sur l'ensemble du pays, à part quelques nuages le long de la Manche et sur la pointe bretonne, avec une hausse des températures qui se confirme pour plusieurs jours et jours et nuits. Nouveau pic de chaleur annoncé donc dès demain, avec des maximales entre 24 à Dunkerque et 38 à Angoulême.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
François Clos, Yannel Gougelot.
En attendant l'aide internationale, les recherches se poursuivent dans les décombres du port de Beyrouth. L'explosion d'hier soir a fait, je vous le disais, selon un dernier bilan, 113 morts, plus de 4000 blessés, mais aussi des dizaines de personnes qui sont toujours portées disparues. Sur place, toujours le même spectacle de désolation dans une ville défigurée, le chaos dans les hôpitaux. Et 24 heures après, Nadji, habitant de Beyrouth, est encore sous le choc du désastre qui se déroule sous ses yeux.
C'est le chaos, les routes sont fermées, il y a des embouteillages, il y a des endroits inaccessibles. On a eu peur. D'abord, on a eu comme un tremblement, un vrombissement avec l'immeuble qui bougeait dans tous les sens. Énormément de bruit en même temps. Ensuite, étonnamment, on a eu le souffle avant l'explosion, je ne sais pas. C'est plus près du port que les immeubles se sont effondrés ou sont aujourd'hui risquent de s'effondrer. On parle même d'une route qui est un peu fragile juste à côté du port. Plus loin, c'est surtout en fait les fenêtres, les vitres, beaucoup de portes aussi, beaucoup de tout ce qui est boiserie qui ont volé en éclats. Moi, par exemple, j'essaye de fermer mes fenêtres qui ont explosé avec des planches de bois pour essayer de fermer parce que je suis complètement ouvert, toutes mes fenêtres ont sauté. C'est un chaos indescriptible.
Bonsoir Jeanne Bergaoui.
Bonsoir.
C'est vous qui avez recueilli ce témoignage pour Europe 1. Et dans cette capitale libanaise, en proie au chaos, hein, on vient de l'entendre, les habitants avec lesquels vous avez pu discuter par téléphone semblent bien décidés à réclamer des comptes à leurs dirigeants, notamment sur l'origine de la catastrophe. Et cette fameuse question, pourquoi les 2700 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées sans surveillance depuis des années?
Oui, sans surveillance et surtout à proximité directe des quartiers habités. Comment justifier qu'un tel stock soit resté là aussi longtemps alors que plusieurs personnes auraient à plusieurs reprises a signalé ce danger au cœur de la ville. Le Premier ministre promet que les responsables de cette catastrophe vont le payer très cher. Mais plusieurs Libanais ont du mal à croire à ces promesses. Eux qui disent ne plus avoir confiance en la classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Alors passer la sidération, c'est maintenant la colère hein, qui gagne les habitants. Parce que pour eux, c'est la catastrophe de trop, celle qui intervient dans un contexte économique désastreux avec une hyperinflation. La moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Une crise économique qui s'illustre d'ailleurs en ce moment même, dans les hôpitaux totalement débordés. Ils n'arrivent pas à prendre en charge tous les blessés par manque de place. Certains sont soignés dans la rue par manque de produits médicaux. D'autres sont opérés sans anesthésie. Alors pour les Libanais, il faudra déterminer les responsabilités, celles d'avant l'explosion, mais aussi celles d'après sur la gestion de la catastrophe.
Merci Jeanne Bergaoui.
Et nous essaierons d'apporter des réponses à ces questions que se posent les Libanais, notamment avec Antoine Basbouz qui sera avec nous en direct dans une dizaine de minutes. L'un des plus fins connaisseurs du Liban. Depuis aujourd'hui, Lionel, la solidarité internationale s'organise, notamment depuis la France. Du matériel de secours, des sauveteurs ont décollé aujourd'hui pour Beyrouth.
Il précède Emmanuel Macron qui sera lui sur place demain pour rencontrer le président Aoun. La sécurité civile achemine cette aide d'urgence habituellement déployée, vous le savez, dans des catastrophes comme les tremblements de terre pour la recherche d'éventuels survivants ou de personnes disparues. Écoutez le colonel Vincent Tessier à la tête des 55 sapeurs-pompiers sauveteurs qui se sont envolés ce midi.
Nous avons une capacité de recherche de victimes ensevelies sous des gravats, des décombres, des caméras, des endoscopes, etc. On a aussi des moyens animaux avec notamment 3 chiens et nous avons aussi un drone. En plus, puisque vous savez qu'il s'agit a priori d'une explosion avec des matières chimiques, j'ai une capacité de prélèvement et d'identification des produits et une capacité de première intervention en ambiance de contamination chimique. Ensuite, évidemment, une capacité de médicalisation d'urgence pour des premiers soins à des victimes. Je suis évidemment à disposition des autorités libanaises pour les aider là où ça sera nécessaire. Je sais qu'il y a également, comme force de sécurité civile, des médecins et des infirmiers du bataillon des marins-pompiers de Marseille, et on reste le temps qu'il faudra.
Le colonel Vincent Tissier, interrogé par Diane Berger pour Europe 1.
Europe 1, 19h05, le journal La Suite, Inès Gougelot, François Claus.
Dans la région de Martigues, la plupart des 2700 habitants évacués la nuit dernière à cause des incendies devraient pouvoir regagner leur domicile ce soir.
En tout cas, en théorie, hein, même si les pompiers sont restés sur le qui-vive toute l'après-midi pour surveiller d'éventuels nouveaux départs de feu, notamment dans la région de Rognac, là, en fin d'après-midi, la situation semble globalement plutôt sous contrôle. Mais au milieu des 1000 hectares ravagés dans la région de Martigues, certains ont tout perdu, notamment dans les campings. C'est le cas de Aldo, qui a dû être secouru par bateau dans la nuit dernière. Il témoigne au micro de Stéphane Frangy.
Ah bon, c'est mort. Le mobilo m'est cramé. Il ne reste plus rien. Cuisinière, frigo, il n'y a plus rien.
Vous viviez là à l'année, c'est ça ?
6 mois dans l'année. On était des résidents. Et voilà, hier à 4h30, c'est tout fini. On a tout perdu.
Et on est comme ça.
Mais on est en short et en t-shirt et c'est tout. On n'a rien. Heureusement, on a les papiers. Et les clés de la voiture. La voiture, elle n'a pas cramé. Heureusement. Elle était là-haut, sur le plateau.
Vous allez faire quoi du coup là maintenant, monsieur ?
Maintenant, eh ben, j'arrête. Je vais me trouver, je sais pas. Parce que moi, on est des Alpes, nous, vers Grenoble. Ah, je sais pas. Non, avec ma femme, je sais pas ce qu'on va faire.
Des propos, pardon.
Oui, allez-y.
Des propos repris par Stéphane Frangy, tout simplement.
Et on allait prendre la direction de Nice, Port du Masque, en centre-ville. La justice a en effet donné raison aujourd'hui à Christian Estrosi.
Ouais, effectivement, le maire de Nice avait été attaqué devant le tribunal administratif par l'un de ses administrés qui dénonçait un excès de pouvoir, figurez-vous. Eh bien, l'arrêté municipal de Christian Estrosi a donc été confirmé. En tout cas, il est un endroit où, notamment, la prévention par le masque semble avoir eu des effets bénéfiques. C'est le département de la Mayenne, montré du doigt ces derniers jours, pourtant comme étant l'un des principaux clusters en France. Et il se trouve, Victor Delande, que les derniers indicateurs sur le front de l'épidémie du Covid, ces derniers indicateurs sont plutôt encourageants.
Oui, depuis plusieurs jours, les courbes s'inversent. Le taux d'incidence du coronavirus dans le département, vous savez, c'est le nombre de cas pour 100 000 habitants. Eh bien, ce taux a été divisé par 3 dans les 15 derniers jours, alors qu'il y avait encore 150 habitants contaminés sur 100 000 il y a 2 semaines. Ce taux d'incidence est retombé à 50. Alors certes, ce chiffre est toujours au-dessus du seuil d'alerte, mais l'épidémie est désormais sous contrôle. Notre plan d'action va dans le bon sens, a affirmé hier soir le directeur général de l'ARS des Pays de la Loire. Une stratégie payante basée sur le port du masque, obligatoire, imposé dans les lieux publics de 69 communes. Les autorités locales se sont également appuyées sur un dépistage massif. Plus de 40 000 tests ont été réalisés sur les 2 dernières semaines. Enfin, les personnes positives au Covid-19 ont été isolées et placées en quarantaine. Ces mesures avaient pour objectif d'éviter un reconfinement local en Mayenne. Et pour l'instant, ça a marché. Les chiffres sont à la baisse. Et pour le moment, le préfet du département exclut totalement cette hypothèse du reconfinement.
Merci Victor Delande.
Après les 170 millions d'euros débloqués au mois de mai dernier, Jean Castex, le Premier ministre, annonce une enveloppe supplémentaire de 80 millions en faveur de la filière viticole.
Des professionnels qui ont particulièrement souffert de la crise sanitaire. 1,5 milliard d'euros de pertes, selon les estimations de la filière. C'est la raison pour laquelle Bernard Farge, le président de la Confédération nationale des AOC, espérait plus.
Bien entendu, nous soulignons la rallonge qui a été faite aujourd'hui même par le Premier ministre lui-même, qui est venu sur un vignoble, et ça c'est une bonne chose. Mais le plan est insuffisant en termes de moyens. Je rappelle que la viticulture française, c'est 500 000 emplois, 12 milliards d'excédents commerciaux. Et nous sommes du niveau de l'aéronautique et de l'automobile, hein, mais pour ces secteurs-là, ce sont des milliards qui sont en soutien. Pour l'instant, nous sommes aux environs de 200 millions d'aides de l'État sur la viticulture, et c'est évidemment insuffisant. Pour nous, le travail n'est pas fini. À l'automne, nous aurons des discussions et des demandes auprès du gouvernement pour obtenir des exonérations de charges dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Et c'est à ce moment-là que nous espérons nous faire entendre plus fort et avoir un soutien encore plus affirmé de la part du gouvernement.
Des propos recueillis par Élise Dangean.
Alors, ce n'est pas vraiment l'affiche du siècle, un PSG Sochaux ce soir au Parc des Princes, mais voilà, nous sommes à une semaine du quart de finale de la Ligue des Champions.
Ouais, et Paris Saint-Germain-Sochaux, c'est le coup d'envoi qui a été donné, oui, il y a quelques minutes seulement. Hein, c'était à 19h, c'est bien ça, Julien Froment.
Oui.
Dernière mise en jambe, donc, mais avec beaucoup de titulaires hors pot. Hein.
Oui, exactement. 10 minutes de jeu ici dans un Parc des Princes, forcément, qui sonne creux, puisque le match à huis clos. Et donc, ce Paris Saint-Germain assez panaché. Hein, ce sont les joueurs en manque de temps de jeu qui ont été été aligné par Thomas Tuchel. On va notamment surveiller le latéral espagnol Juan Bernat qui dispute eh bien, ce soir ses toutes premières minutes de la saison et qui est attendu eh bien, titulaire le 12 août prochain face à cette équipe de l'Atalanta Bergame. Alors pour la bonne nouvelle, c'est qu'après 10 minutes de jeu, il a l'air plutôt en jambes. La mauvaise nouvelle en revanche, c'est que nos confrères de BFM annoncent le très probable forfait de Marco Verratti pour le match de l'Atalanta Bergame. Apparemment, il aurait reçu à l'entraînement d'hier un coup au mollet et il doit passer des examens complémentaires demain, mais ça sent pas très bon pour le milieu de terrain italien. On le rappelle déjà, Kylian Mbappé très incertain, André Di Maria forfait car suspendu, et donc peut-être Marco Verratti aussi absent pour ce quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame. Voilà, 0-0 en ce moment entre Paris et Sochaux, mais pas des bonnes nouvelles dans les rangs parisiens.
Merci quand même, Julien Froment.
Oui, c'est un vrai coup dur, hein, tellement il avait été flamboyant l'Italien là, en finale de la Coupe de la Ligue. Comme quoi, ça valait le coup d'aller au Parc des Princes pour parler de PSG Sochaux, mon cher Lionel. On vous retrouve pour les grands titres de l'actu à 19h30.
Et cet été, après le journal de 19h sur Europe 1, notre rendez-vous, la bonne idée au téléphone avec vous ce soir, François. Véronique Albou, porteuse du projet Bolder en Savoie.
Et oui, on voulait vous féliciter, vous rendre hommage ce soir. Bonsoir Véronique Albou.
Bonsoir François.
C'est vous qui avez porté cette idée là pour l'Office du tourisme Savoie-Mont-Blanc. 11 000 familles dans votre région ont eu la bonne surprise d'avoir un chèque de 100 euros sous forme de chèque vacances dans leur boîte aux lettres ces derniers jours. Vous avez décidé, avec l'aide de la CAF, de soutenir les familles les plus défavorisées de votre région pour les aider à profiter de cette belle région et à mieux vivre leur déconfinement.
Tout à fait. Donc cette grande opération Bol d'air solidaire a été initiée par la CAF de Savoie avec le soutien du Conseil départemental de la Savoie, en partenariat avec la NCV, bien sûr, l'Agence nationale des chèques vacances, et nous-mêmes, Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Cette grande opération visait à faire prendre un grand bol d'air à ces familles après ce confinement, donc des familles savoyardes ayant des enfants de 8 à 10 ans. Et elle avait un double objectif.
Allez-y,
excusez-moi.
Oui. Non, allez-y, Véronique.
C'était aussi de relancer l'économie locale, relancer l'économie de loisirs et du tourisme, donc de cette destination Savoie-Mont-Blanc qui comprend les deux départements Savoie et Haute-Savoie.
Alors vous avez sélectionné un certain nombre d'activités là où ces chèques vacances de 100 euros pourront être utilisés. Il y a à la fois des vacances un petit peu apprenantes peut-être pour les enfants, mais aussi des activités culturelles, sportives évidemment dans votre région et des balades en altitude et au grand air.
Tout à fait. Donc notre rôle a été de sélectionner un certain nombre de sorties, donc comme vous l'avez dit, sur différentes thématiques, mais également sous différents formats. On a des sorties à la demi-journée, des sorties à la journée, des escapades de quelques nuits, mais également des colos, puisqu'on sait qu'il y a des parents qui doivent travailler cet été. Et donc, on a sélectionné un certain nombre de colonies de vacances sur le département de la Savoie qui permettront à ces enfants d'aller s'aérer, soit en montagne, soit au bord de nos grands lacs.
Eh bien, écoutez, très très belle idée que nous voulions ce soir saluer sur Europe 1, qui va peut-être donner de bonnes idées à d'autres offices du tourisme et d'autres régions. Et puis comme la tendance, Véronique Albou est aux vacances près de chez soi, vous aidez à l'appliquer. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce soir en direct.
Avec plaisir, au revoir.
L'ami Christophe Pierrot me disait chaud devant, Valérie Darmon, vous confirmez?
Je confirme, ça va brûler.
Ça va brûler même, c'est
ça
brûlant
va brûler
devant.
Sérieusement. Et oui, demain après-midi, ça commence. L'épisode de très forte chaleur débute du sud-ouest au bassin parisien jusqu'au nord. C'est en Nouvelle-Aquitaine que les températures seront les plus élevées avec 34 à 37, localement 38 dans le sud des Landes. Vos thermomètres afficheront 33 à 35 sur les Pays de la Loire et le centre, la Bourgogne et la région parisienne, 31 à 33 sur les Hauts-de-France. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les températures qui vont rester élevées, proches de 20 degrés,
d'où le fait qu'on parle de canicule. Vendredi, premier pic de très forte chaleur du sud-ouest aux régions du centre avec des valeurs de 35 à 40 l'après-midi, 42 dans l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine. Plus au nord, 34 à 37 du nord au bassin parisien, mais aussi sur la Champagne et la Bourgogne. Météo France annonce 35 à Lyon et 37 en basse-vallée du Rhône. Samedi, après une nuit tropicale avec des valeurs de 20 à 23 dans les grandes villes, les températures baisseront près de la façade atlantique et surtout le sud-ouest. En revanche, la chaleur s'accentuera encore dans le nord et dans l'est. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment.
Et on en reparlera, bien sûr, avec vous, Valérie Darmon. Merci.
Europe 1. Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, François Claus, et votre invité Le Monde d'après dans un instant.
Et oui, surtout le Liban d'après, le Liban d'après explosion, le Liban d'après système politique de plus en plus obsolète et contesté. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure à 18h15 cet habitant de Beyrouth en larmes qui hurlait, mais qu'il parte, et il parlait de ses dirigeants. Et Antoine Basbous, qui a fondé l'Observatoire des pays arabes, sera avec nous dans un instant en direct pour voir quelles pistes on peut imaginer pour que le Liban se relève et ressorte de ses cendres. Et puis restez bien à l'écoute, hein. 19h30, on aura l'épisode 3 de notre saga Festival de l'île de White avec un petit air de bossa nova. Et Festival d'aujourd'hui, on va aller avec Naïma Benchemann dans des chaises longues et devant un grand écran de cinéma, nous qui avons pendant 3 mois été rivés à nos petits écrans d'ordinateur. Ça va faire du bien, à tout de suite.
19h18, votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview Le Monde d'après avec vous, François. Votre invité, le politologue et fondateur de l'Observatoire des pays arabes, Antoine Basbous.
Merci à vous, Antoine Basbous, d'être ce soir en direct sur Europe 1 et de nous apporter vos commentaires, vous, toujours pertinents, sur le Liban. Notre confrère du Monde, Benjamin Barthes, écrit cet après-midi « Le Liban n'est plus au bord du gouffre, il est tombé dedans ». Est-ce que vous souscrivez à un tel propos ?
Je suis d'accord avec cette approche. Le Liban est tombé très bas par terre et au lieu de se relever, il est en train de creuser davantage et de s'enfoncer.
Est-ce à dire, Antoine Basbous, que le système politique libanais, dans lequel trois communautés, chiites, sunnites, chrétiens, se partagent le pouvoir, qui avait été ébranlé, il faut bien le dire, par la guerre de 2006 contre Israël, quand le Hezbollah s'est imposé, soutenu par l'Iran, est-ce à dire que ce système a explosé également hier soir ?
Je dirais que c'est l'aboutissement d'un abandon de la souveraineté nationale au profit d'une milice messianique qui est, elle, aux ordres d'une puissance étrangère, qui a tout contrôlé, qui a nommé le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, le président du Parlement. Elle a instauré un système dans lequel les affaires stratégiques qui concernent le Hezbollah, eh bien, il les dirige. Le Hezbollah dirige, commande la paix, commande la guerre, commande l'économie, commande les frontières, et laisse ses acolytes qu'il a mis en place, il les laisse se corrompre et en même temps partager les produits de la corruption avec le Hezbollah. Donc c'est tout un système qui s'effondre et qui ne peut plus marcher. Il n'y a aucun pays au monde qui puisse être dirigé par une milice et une milice qui obéit à une puissance étrangère et qui contrôle tous les pouvoirs et qui place en vitrine des hommes qui lui obéissent au doigt et à l'œil.
Comment est-ce qu'on peut imaginer de repenser totalement le système étatique libanais ?
Un nouvel État libanais a besoin de voir le jour, mais je ne perçois pas jusque-là la feuille de route qui va conduire les Libanais vers ce jour nouveau. Le système actuel, il est dévoyé, il est contrôlé totalement par le Hezbollah, qui non seulement nomme les représentants chiites, mais également nomme les représentants chrétiens, sunnites, druzes au pouvoir. Donc, c'est un système complètement dévoyé, complètement à la main du Hezbollah, qui lui est le bras armé d'une puissance étrangère en Méditerranée. Ça ne peut pas durer, ça aboutit à un État failli et ça aboutit également à la faillite de l'État libanais déclaré en mars dernier.
On a vu Antoine Basbous, avant le confinement lié à l'épidémie, des mouvements de rue très puissants au Liban qui regroupaient la jeunesse, toute communauté confondue, y compris chiite, pour dire ce système on n'en veut plus. Est-ce que le peuple libanais demain ne sera pas celui qui va faire évoluer ce pays et non plus ses leaders politiques.
Eh bien, c'est ce mouvement du 17 octobre, ce Chirac du 17 octobre, eh bien, il a été torpillé par les puissances politiques, y compris et particulièrement par le Hezbollah, qui a envoyé ses hommes tabasser les manifestants au cri de Shia, Shia, c'est-à-dire chiite, chiite, de sorte à ramener chaque contestataire à son origine communautaire. Et la classe politique d'autres communautés se félicitait de cette intervention du Hezbollah pour retrouver les réflexes d'antan. Et le Covid est venu pour stopper ce mouvement populaire qui était extrêmement intense et qui était représentatif des aspirations de la jeunesse et du peuple libanais.
Oui, mais est-ce que cela, Antoine Basbouze, peut durer encore longtemps, ce Beyrouth avec des coupures d'électricité entre 4 et 6 heures par jour, ces professeurs d'université qui gagnaient encore il y a peu 4 000 $ et qui sont aujourd'hui à moins de 800 $ par mois, l'effondrement de la monnaie, il y a un moment donné où, aussi puissante soit-elle, cette milice messianique, comme vous l'appelez, elle ne pourra pas répondre à cette colère et à la montée, finalement, tout simplement de la faim au Libanais et de la pauvreté.
Eh bien, c'est une milice extrêmement structurée, adossée à une puissance régionale très organisée, qui aura, je dirais, le temps le plus long pour résister aux difficultés de la vie quotidienne. Évidemment, le Liban, avec quelques heures d'électricité par jour, un pays où les ordures ménagères ne sont plus ramassées, où les infrastructures ne fonctionnent plus, où aucun service n'est rendu, eh bien ce pays ne pourra plus résister, ne pourra plus se tenir debout, et fait que les Libanais sont des mendiants aujourd'hui. Plus de la moitié de la population libanaise, je ne parle pas des 2 millions de réfugiés qui sont démunis, totalement démunis, venus de Syrie, eh bien tout ce monde de pauvres va se révolter contre cette caste politique, et forcément le Hezbollah qui tient cette caste en place sera lui aussi concerné par cette révolte populaire.
Vous êtes très sombre sur l'avenir possible du Liban et vous ne voyez qu'une solution à travers un affrontement violent demain. Alors si on remonte aux années 70 et 80, 15 ans de guerre civile, vous redoutez que le Liban de nouveau ne bascule pour se reconstruire ?
Je crois que l'affrontement c'est la pire des solutions et c'est l'enfoncement de encore plus profonde que ce que c'est. Je crois que la seule solution, c'est la normalisation. La normalisation, c'est que les institutions reprennent leur place et qu'une milice armée désarme, rend les armes à l'armée libanaise et ne puisse pas être plus puissante que l'armée de l'État libanais. C'est anormal qu'une milice détienne plus d'armement, qui soit plus structuré, qui ait ses renseignements, qui nomme les présidents de la République, du gouvernement, du Parlement, et qui domine toute la classe politique. Ça n'existe nulle part ailleurs, et ça n'a jamais réussi au monde. Pourquoi voulez-vous que ça réussisse au Liban ? C'est une imposture totale dont nous sommes en train d'assister aux conséquences les plus terribles.
On a vu une mobilisation immédiate de l'ensemble des puissances mondiales et étrangères venir au chevet du Liban. Dans l'effort de reconstruction possible qu'on évoque et pour éviter ce potentiel bain de sang, vous en appelez également ce soir, Antoine Basbouze, aux puissances étrangères. On pense que Emmanuel Macron va se rendre jeudi, notamment à Beyrouth.
Écoutez, l'émotion d'hier soir a fait que beaucoup de pays, beaucoup d'amis du Liban, dont la France en premier lieu, ont fait des gestes. Mais ces gestes, c'est pour penser les blessures de 4 000 personnes qui sont tombées hier, sans compter les morts. Mais cela ne construit pas une nation, cela ne donne pas une feuille de route pour refaire, recomposer le Liban. L'année de son centenaire, le Liban est tombé, il ne faut pas reconstruire avec ces morceaux-là pourris. Il va falloir trouver une feuille de route, une nouvelle dynamique et donner à la société libanaise l'opportunité de s'exprimer pour se soulever et pour refaire un espoir, un destin qui échappe au contrôle et de l'Iran et de la milice de Hezbollah.
Merci beaucoup d'avoir été ce soir en direct avec nous, Antoine Basbous, fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Je renvoie également au Tsunami arabe, c'est le titre de votre ouvrage paru en 2011 chez Fayard. Merci encore, Antoine Basbous.
Je vous en prie.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir sur Europe 1, François.
On ne va pas lire le livre d'Antoine Basbous, quoi qu'il faille le lire, mais on va vous donner un conseil de lecture avec Nicolas Carreau dans un instant, avant de partir sur les festivals d'hier, d'aujourd'hui et même l'idéal.
Sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir avec vous, François Claus.
Et on va écouter les grands titres de l'actualité du soir avec vous, Lionel Gougelot.
Emmanuel Macron s'envolera demain pour Beyrouth pour exprimer la solidarité française à l'égard du Liban au lendemain de l'explosion dans le port de la capitale. Dernier bilan, 113 morts, plus de 4000 blessés et toujours des dizaines de disparus qui peuvent encore se retrouver sous les décombres selon les autorités. L'état d'urgence a été décrété pour 2 semaines dans le pays. 21 Français ont été blessés dans cette catastrophe. La tour Eiffel sera éteinte ce soir à minuit en hommage aux victimes. Un plan d'aide renforcé pour la filière viticole. Jean Castex annonce une enveloppe supplémentaire de 80 millions d'euros pour soutenir les viticulteurs frappés par la crise sanitaire. Une somme qui s'ajoute aux 170 millions débloqués au printemps dernier. Le violent incendie qui a ravagé le littoral près de Martigues dans les Bouches-du-Rhône est désormais maîtrisé. Les soldats du feu restent toutefois vigilants car ils sont toujours à la merci de départ ici ou là. C'est le cas notamment à Rognac où l'autoroute A7 a été fermée à la circulation dans le sens Marseille-Lyon. Frappé pour avoir voulu mettre fin à un tapage nocturne, le maire du petit village de Saint-Philippe-d'Aiguille a été victime de coups de la part d'un des participants à une fête un peu trop bruyante. Il a décidé de porter plainte. Et puis chaleur et pollution à l'ozone, la circulation sera différenciée en Île-de-France à partir de demain jeudi. Seuls seront autorisés à circuler les véhicules munis d'une vignette critère classe 1E, classée de 0, 1 et 2. Voilà,
c'est noté, 0, 1 et 2. Vous n'avez pas oublié quelque chose, Lionel ?
Le foot ?
Non, les plages ! Valérie Darmon, on va faire notre petit tour de France des plages avec vous. C'est toujours un moment de délice. Et allez, si on commençait par la Manche.
Ah bah oui, surtout que l'eau est bien fraîche alors qu'il va faire bien chaud. Pour la température de l'air, la température de l'eau va osciller entre 17 dans le Cotentin et 20 degrés dans la baie du Mont-Saint-Michel, 17 aussi dans l'eau de baignade des Côtes d'Armor et 19 sur la côte d'Opale. Sans vent sur cette mer du Nord très calme et cette Manche tout à fait estivale. Très beau temps sur le pourtour méditerranéen avec une eau entre 18 dans l'Hérault et 24 dans les Alpes-Maritimes qui ne va pas manquer de se réchauffer dans les jours à venir avec des valeurs sous vos parasols aux alentours de 31 degrés. Tout à fait raisonnable là aussi. Très beau temps aussi évidemment sur la façade atlantique avec des valeurs sur vos plages entre 26 à Lorient et 33 du côté de Bidart et de Guétari pour un océan extrêmement calme entre 18 dans le Finistère Sud et 23 sur la côte basque.
Eh bien, nous, on va se contenter, Gerline, de Paris-Plage. Hein.
C'est, voilà.
C'est un autre concept, mais c'est bien au moins de rêver de ces plages.
Europe 1. Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
C'est dangereux, un auteur qui parle de lui-même dans un livre.
Europe 1, un jour d'été, un livre.
Quand vous le lisez et que ça me paraît bien, je me dis que ça doit être vraiment bien.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Bonsoir Nicolas Carreau.
Bonsoir François.
Et le mercredi, c'est le jour du livre audio avec vous. Vous avez choisi ce mercredi un roman culte, mais à écouter, donc ne tirez pas sur l'oiseau moqueur.
Signé Harper Lee, c'est sans doute l'un des plus beaux romans du monde. On le connaît peu en France, mais c'est le livre préféré des Américains. Prix Pulitzer en 61, adapté au cinéma avec Gregory Peck. C'est un monument littéraire.
Alors, petit rappel de l'histoire.
Nous sommes dans les années 30, aux États-Unis, en Alabama, dans une petite ville, Maycombe. Atticus Finch est avocat. Il élève seul ses deux enfants, Jem, Jérémy, son fils, et Jean Louise, sa fille, mais tout le monde l'appelle Scott. C'est elle qui nous raconte l'histoire. Elle nous raconte que la vie de la petite famille est un peu bouleversée quand Atticus est un jour commis d'office pour défendre Tom Robinson, un noir, accusé d'avoir violé une femme blanche. Autant vous dire que dans les années 30, en Alabama, donc au sud des États-Unis, ça lui vaut quelques inimitiés. On regarde un peu toute la famille de travers. Les enfants, James et Scott, se font insulter dans la cour de récré. Un soir, des villageois se rassemblent même pour lyncher l'accusé, mais Atticus ne lâche rien. Il y a une scène magnifique, culte, où en pleine nuit, il fait barrage physiquement aux villageois. Scott et James sont là, Atticus veut que les enfants rentrent, mais eux veulent rester pour protéger leur père, et Scott rue dans les brancards, sauf que Atticus ne l'encourage pas du tout, il l'engueule devant tout le monde, on ne tape pas les gens, quoi qu'il arrive, c'est d'abord un roman sur la non-violence, d'où le titre. Les enfants s'amusent avec des carabines à plomb, Atticus leur dit « vous pouvez jouer, tirer sur des boîtes, mais surtout ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qui est le symbole de l'innocence ». Je vous fais écouter le tout début, lu par Cachot Kirsch.
Mon frère Jem allait sur ses 13 ans quand il se fit une vilaine fracture au coude. Mais aussitôt sa blessure cicatrisée et apaisée ses craintes de ne jamais pouvoir jouer au football, il ne s'en préoccupa plus guère. Son bras gauche en resta un peu plus court que le droit. Quand il se tenait debout ou qu'il marchait, le dos de sa main formait un angle droit avec son corps, le pouce parallèle à la cuisse. Cependant, il s'en moquait. Du moment qu'il pouvait faire une passe et renvoyer un ballon. Bien des années plus tard, il nous arriva de discuter des événements qui avaient conduit à cet accident.
C'était donc la voix de Cachot Kirsch. Où est-ce qu'on trouve ce livre audio, Nicolas ?
Sur audible.fr, par exemple.
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, grand classique à lire, donc, ou à écouter. Merci, Nicolas. À demain.
À demain.
Et demain, c'est le jour de l'essai, de la réflexion.
Oui.
Europe 1. Et restez bien avec nous après la lecture, la musique. Dans un instant, François, dans votre grand journal du soir.
Ah oui, et les archives d'Europe 1 également, Géraldine, puisque nous vous faisons revivre pendant tout l'été en 15 épisodes avec Jean-François Pérez et les archives d'Europe 1 ce que fut le gigantesque festival de l'île de Wight durant l'été 1970.